L'Amérique du Sud est secouée depuis plusieurs semaines par divers mouvements sociaux. En Bolivie, au Chili, en Uruguay, en Équateur, il y a encore quelques semaines, les gens descendent massivement dans la rue. Et quand ils ne manifestent pas, ce n'est pas parce que le pays va bien, comme au Venezuela qui s'enfonce dans la crise économique, ou au Pérou qui a connu début octobre une tentative de destitution politique. En fait, c'est tout le continent qui semble touché par une immense vague de contestation, tantôt politique, tantôt économique. En Argentine, c'est la politique libérale du président Mauricio Macri qui risque d'être sanctionnée demain lors de l'élection présidentielle, tandis qu'en Uruguay, la campagne qui aboutira au vote demain s'est faite sur le thème de l'insécurité. Bonjour Olivier Compagnon.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes historien, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous dirigez l'Institut des hautes études de l'Amérique latine jusqu'au mois de juin, depuis 2015 et jusqu'au mois de juin de cette année. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du Centre de recherche et de documentation des Amériques. Tout un continent, ou presque, qui s'embrase, c'est suffisamment rare pour être noté?
C'est vrai que lorsqu'on se tourne vers les quelques décennies passées, on trouve difficilement une conjoncture témoignant d'explosions aussi synchrones en Amérique latine. Alors évidemment, on cherche, il faut jamais réduire l'Amérique latine à un espace homogène, etc. Donc on cherche nécessairement des raisons qui seraient transversales, et il y en a une qui vient tout de suite à l'esprit, qui est assez évidente, c'est qu'il y a un contexte de crise économique extrêmement fort depuis 4 ou 5 ans. Pour aller vite.
Oui, c'est avant tout économique.
C'est d'abord économique. Pour aller vite, l'Amérique latine a connu une phase de croissance assez extraordinaire entre le début des années 2000, 2002, 2003 en gros, et 2013. Et c'est une phase de croissance dont on connaît parfaitement les causes. C'était d'une part l'augmentation de la demande chinoise notamment, et par conséquence l'augmentation du prix d'un certain nombre de matières premières qu'exportent les pays d'Amérique latine. Et là, on a eu une phase de prospérité incroyable, une croissance moyenne de la région entre 2003 et 2013 de 4%, mais parfois avec des taux de croissance supérieurs à 10% chaque année. Et donc là, ça fait pâlir d'envie des pays européens qui dont la croissance végète autour de 1%, 1,5%, etc. Et puis 2013, tout s'arrête. Rétrécissement de la demande chinoise, effondrement du prix d'un certain nombre de ces matières premières, et donc une certaine morosité économique depuis 5 ans, une croissance autour de 1%, parfois comme en Argentine, des années où il y a vraiment une récession, prévision de croissance pour 2019, 0,6% pour la région, donc là c'est vraiment extrêmement restreint, et donc il y a des conséquences immédiates d'un point de vue social, puisque dans la phase de prospérité, on avait vu très logiquement, parce qu'il y avait un retour à l'emploi, une baisse de la pauvreté, aussi des baisses des inégalités dans toute une série de pays, et depuis 2013, tous les indicateurs de la précarité sociale sont en train de repartir à la hausse. Et ça, c'est vraiment, alors, il faudrait affiner le constat ensuite en fonction des différents pays, mais ça, c'est une donnée générale qui est à l'origine, je dirais, de cette vague de contestation.
Je m'adresse, c'est vous qui vous arrêtez de parler, je m'adresse à l'historien que vous êtes. C'est déjà arrivé dans l'histoire, cet effet domino, cet effet d'entraînement?
On a un bel exemple d'effet domino dans l'histoire, c'est les indépendances latino-américaines. Au début du 19e siècle, en 1810 plus précisément, alors que on ne vit pas encore dans un monde connecté, alors que la circulation entre Caracas et Buenos Aires est un peu compliquée en 1810, on voit une vague politique de remise en question de la domination espagnole qui aboutit une dizaine d'années plus tard à l'émancipation de la plupart des colonies espagnoles. Donc effectivement, cette région a parfois des moments de destin commun. On l'a vu également au 20e siècle dans la relation avec les États-Unis, la vague de coups d'État plus ou moins pilotés ou plus ou moins appuyés par les États-Unis. Donc il y a des éléments qui peuvent effectivement nous permettre de regarder l'Amérique latine comme un ensemble qui parfois est soumis à des conjonctures communes. Et là, on est véritablement dans ce contexte-là, c'est ça qui est intéressant.
Vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez ça inquiétant? Est-ce que vous trouvez ça réjouissant, Olivier Compagnon? Est-ce que vous diriez que c'est un continent qui s'enfonce dans une crise ou un continent qui se relève?
Non, je trouve pas ça réjouissant parce que, au-delà des chiffres qu'on citait, quand on va sur le terrain, l'Amérique latine est l'espace mondial le plus inégalitaire, et ce sont des choses qu'on voit. Donc en aucun cas ce n'est réjouissant. Quand on se promène dans un pays comme le Chili et qu'on voit d'un côté le nouveau quartier de San Atán, c'est le Manhattan de Santiago, qui incarne la très grande prospérité chilienne, le monde de l'exportation du cuivre, l'économie de service, une réelle prospérité, au fond une métropole mondiale. Et par ailleurs, sur les hauts plateaux, aux confins de la Bolivie, des villages qui vivent comme au 19e siècle, si vous voulez. Là, on prend la mesure des inégalités, et donc en aucun cas, ça peut être réjouissant.
Non, mais je ne parle pas de la situation réjouissante.
Des mouvements sociaux qui pourraient réjouir. J'ai bien compris. Mais ce qui est réjouissant, en tout cas, c'est de voir des sociétés civiles qui sont vivantes. Et notamment, dans le cas chilien, c'est très intéressant, puisque moi, j'avais connu, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais connu le Chili en 1992, donc juste au début de la transition. Et alors que la démocratie était restaurée depuis 2 ans, on voyait vraiment une chape de plomb qui pesait encore sur le pays. On voyait une société contrainte par 17 ans de dictature, où les gens ne se parlaient pas, où les mouvements sociaux étaient quasiment nuls, si vous voulez. Et là, effectivement, on voit que le temps a passé. Alors évidemment, le modèle économique au Chili n'a pas été transformé, les inégalités sont criantes, plus que jamais, mais la société civile est vivante. On le voit au travers de ce mouvement social vraiment massif qu'on évoquait tout à l'heure pendant le journal, et on le voit aussi au travers de toute une série d'autres mouvements. Je pense par exemple au mouvement féministe au Chili, qui est extrêmement important.
Notamment en Argentine aussi.
En Argentine également, plus ancien d'ailleurs en Argentine, mais au Chili, très récemment, on a... quasiment dans toutes les universités du pays, des jeunes étudiantes qui ont pris les universités, qui ont bloqué les universités pour attirer l'attention en général sur la condition féminine au Chili et plus spécialement sur les rapports de domination qui peuvent exister dans des mondes clos comme le monde universitaire. Bon, c'est l'effet MeToo, hein, évidemment, que l'on observe ici. Mais en tout cas, ce sont des sociétés civiles qui sont bouillonnantes et ça, c'est plutôt bon signe en termes de vitalité de la démocratie.
Il n'y a pas tellement de rapports, j'imagine, entre l'Amérique latine de 2019 et celle des années 70 ou même 90, Olivier Compagnon. Mais malgré tout, est-ce que ce à quoi vous assistez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que nous d'ailleurs nous entendons ou voyons également, rappelle des scènes anciennes? Ou bien c'est un caractère totalement inédit du fait de cette vitalité des populations que vous ne connaissiez pas autrefois? Là encore, je m'adresse à l'historien.
Alors, des années 60-70, je suis pas certain que ça rappelle des choses parce que le contexte est vraiment radicalement différent. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce que l'on observe à Santiago depuis quelques jours...
On voit des militaires dans les rues, par exemple.
Alors, en termes de mouvement social, ce que je trouve très intéressant dans le soulèvement chilien, c'est qu'il est très spontané. Ce ne sont pas des partis politiques d'opposition, ce ne sont pas des syndicats qui ont appelé à la rébellion, ce sont des étudiants qui, face à l'augmentation soudaine du ticket de métro, du prix du ticket de métro, ont commencé à lancer ce mouvement, comme ils avaient lancé d'ailleurs des mouvements au début des années 2010 pour une éducation plus démocratique, et ensuite toute une série de catégories de la population, lassées effectivement par les inégalités, par la marchandisation de la vie quotidienne, ont embrayé. Et ça renvoie à d'autres émeutes que moi je qualifie d'anti-néolibérales, qui ont eu le même caractère spontané. Par exemple, en 1989 au Venezuela, le fameux Caracaso, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui est très important dans la genèse du chavisme, 10 ans plus tard.
Il faut nous le réexpliquer.
Alors, le Caracaso, c'est extrêmement simple. Il y a des élections présidentielles au Venezuela. Est élu un candidat social-démocrate qui a déjà été au pouvoir dans les années 70, qui s'appelle Carlos Andrés Pérez. Il est convoqué à Washington, comme tous les nouveaux présidents de l'époque, au FMI, pour renégocier la dette. Et donc, le FMI accepte de renégocier la dette en échange d'une thérapie néolibérale brutale. Carlos Andrés Pérez rentre à Caracas, fait une série d'annonces, augmentation du prix, je me souviens, du lait, de toute une série de denrées quotidiennes élémentaires. Et là, explosion sociale dans le Venezuela, aussi bien à Caracas que dans toutes les grandes villes de l'intérieur. Répression féroce de la démocratie vénézuélienne. Hein. Le bilan officiel, c'est 300 morts. Beaucoup disent entre 3 et 6 000, en vérité. Et c'était une émeute qui avait beaucoup échappé aux observateurs à l'époque, parce qu'effectivement, elle n'était pas guidée, lancée par des partis ou par des syndicats. 2001 en Argentine, c'est la même chose. Et là, on a ce contexte, disons, de refus soudain, de ras-le-bol, de refus soudain du monde généré par cette mutation néolibérale, donc quand même, alors, qui est une mutation globale, on le sait bien, mais qui s'est faite en Amérique latine, très souvent avec une certaine brutalité, parce que derrière, il y avait les régimes autoritaires. C'est-à-dire que sous Pinochet, hein, quand on détruit en gros le système d'éducation publique en 1979, il n'y a pas de mouvements sociaux parce que c'est la dictature. Alors après, pour revenir à la première partie de votre question, évidemment, quand on regarde la manière dont aujourd'hui Piñera essaie de contenir le mouvement social au Chili, notamment en rétablissant un couvre-feu pour la première fois depuis 1987, ou encore en déployant l'armée dans les rues. Ça rappelle évidemment des souvenirs et ça nous fait réfléchir de manière très intéressante, je crois, sur la persistance d'un certain nombre de phénomènes autoritaires hérités des dictatures des années 70-80 dans les démocraties restaurées et consolidées.
Malgré tout, dans tous ces mouvements qui émergent un peu partout sur le continent, Olivier Compagnon, est-ce que vous verriez un phénomène qu'on appelle le dégagisme? Est-ce que c'est l'impact, par exemple, de l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil joue d'une façon ou d'une autre? Ou bien c'est le cycle démocratique qui se referme après 30 ans de démocratie et c'est quelque chose de beaucoup plus traditionnel, disons?
Non, je ne crois pas que le cycle de démocratie se referme. En revanche, il y a un contexte qui n'est pas un contexte spécifiquement latino-américain de crise de représentation des partis politiques. Mais enfin, c'est un contexte français. Quand on regarde la présidentielle de 2017, on voit les deux principales forces politiques qui avaient structuré le jeu politique français depuis 30 ou 40 ans, en gros le PS et l'UMP, sombrer corps et biens et un outsider apparaître sur la scène politique. Et ça existe effectivement pleinement en Amérique latine, même s'il y a aussi des pays comme le Chili, ou comme l'Uruguay, dont on parlera peut-être, où au contraire, on a une vie politique qui reste très structurée autour de partis traditionnels. En fait, c'est pas un phénomène nouveau, cette crise de la représentation politique. C'était le grand thème de prédilection des politistes qui parlaient de l'Amérique latine dans les années 90. Justement, à une époque où les thérapies néolibérales étaient partagées aussi bien par les partis de droite que par le centre-gauche, et où finalement... La réaction des électeurs, c'était bon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein. Et puis donc on dégage tout le monde et on recourt à un outsider. C'est le schéma vénézuélien des années 90. La vie politique vénézuélienne depuis 1958, c'était deux partis, un centre droit démocrate chrétien, COPEI, un centre gauche social-démocrate, Acción Democrática. Ils faisaient exactement la même politique. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est Chavez qui arrive. Chavez, c'est l'outsider. C'est une troisième voie rêvée. Et puis après, voilà, ça donne ce que ça donne.
Il y a un pays, Olivier Compagnon, vous l'évoquiez, qui échappe d'une certaine façon à cette crise économique. On parle de ce pays comme d'un pays qui est assez stable d'un point de vue démocratique. On dit même que c'est la Suisse de l'Amérique latine. Il vote demain ce pays, c'est l'Uruguay. Là, ce n'est pas le thème économique qui s'est imposé dans la campagne, c'est le thème de la sécurité et son revers, l'insécurité. Dans quel état est ce pays, l'Uruguay, aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que l'Uruguay apparaît comme une exception par sa stabilité, même si l'Uruguay a aussi connu une dictature très dure dans les années 70, à partir de 1973. C'est une exception parce que c'est le seul pays d'Amérique latine qui a connu véritablement un processus de construction d'un État social, pour le dire à la française, d'un État-providence. Et avant notre séquence 1936-1960, hein, c'était au début, dans les deux premières décennies du XXe siècle, où on a vu émerger effectivement des politiques d'assurance sociale, des politiques de redistribution, certainement plus faciles à mettre en œuvre dans un pays de 1,5 million ou 2 millions d'habitants à l'époque que dans un pays gigantesque comme le Brésil, mais en tout cas qui a fait de l'Uruguay un pays de classe moyenne, un pays où, depuis le début du XXe siècle et toujours aujourd'hui, ce sont les inégalités sont les plus faibles en Amérique latine, et donc avec effectivement une grande stabilité politique, dont témoigne d'ailleurs une certaine alternance politique, même si là, au fond, ça fait 15 ans que le centre-gauche est au pouvoir et risque encore de gagner. Alors sur la question de la sécurité, justement, au fond, l'Uruguay est confronté à une question qui est une question latino-américaine, hein, la question de la violence quotidienne dans les sociétés, qui pèse lourdement sur les populations. Mais jusque-là, l'Uruguay était relativement préservé par cela. Et c'est vrai que récemment, toutes les statistiques ont indiqué un regain de délinquance. Alors c'est pas tellement la violence lourde qu'on peut observer dans d'autres pays, au Venezuela, en Colombie ou au Brésil, liée au trafic de drogue, qui pèse énormément sur le quotidien des populations. C'est plutôt aujourd'hui une violence, des formes de délinquance auxquelles notamment les villes uruguayennes ne sont pas habituées. Et c'est vrai qu'on a vu surgir de manière un petit peu étonnante ce débat sur la sécurité, qui néanmoins, d'après en tout cas les chiffres dont on dispose, ne devrait pas peser si lourdement que ça sur les résultats des élections, puisque le Frente Amplio est annoncé gagnant aux élections de demain.
L'historien Olivier Compagnon, spécialiste de l'Amérique latine, est avec nous. On vous retrouve d'ici quelques minutes, juste après la chronique internationale de Matteo Caranta, 8h31 sur France Culture. Mais en gros, si on résume la situation, si on la schématise, hein, en Argentine, où donc l'élection présidentielle aura lieu demain, ça voudrait dire que les Argentins ont le choix entre quelqu'un qui est corrompu, ou en tous les cas soupçonné de corruption importante, colistière donc du péroniste de centre-gauche candidat Alberto Fernandez, et un libéral élu depuis 4 ans sous le slogan « Zéro pauvreté », mais qui ne semble pas avoir tenu ses promesses, puisque l'Argentine est en proie à une crise économique très profonde, crise alimentaire. On dit même qu'aujourd'hui, c'est devenu un luxe de boire du lait. Donc, on est dans cette situation-là ? C'est comme ça qu'on peut présenter les choses ?
On est à peu près dans cette situation-là. Je précise quand même sur Mauricio Macri qu'il a également trompé, enfin, son nom apparaît dans l'affaire des Panama Papers.
Corrompu
donc,
également.
Voilà, la corruption touche les deux camps, même si c'est peut-être pas dans les mêmes proportions. Et je précise également quand même que l'échec de Macri doit être aussi mesuré à l'aune du prêt record unique dans l'histoire que lui a accordé le FMI, 57 milliards de dollars quand même, sans que cela ait pu aider à notamment contrôler l'inflation, à stabiliser le peso, puisque finalement c'est ce cercle vicieux hein, aujourd'hui du peso qui régulièrement dévisse par rapport au dollar, qui stimule l'inflation, 55% d'inflation en 2019, hein, annoncé quand même en Argentine. Et aujourd'hui, ce que voient les Argentins d'abord, au-delà de toute considération politique, c'est le fait que, et c'est un peu ce qui se passe au Chili d'ailleurs, hein, là il y a vraiment des comparaisons à faire, c'est le fait qu'on n'arrive pas à finir le mois. Non pas pour
un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Exactement. Aujourd'hui, les chiffres de pauvreté dans un pays comme l'Argentine sont absolument incroyables. Et c'est d'abord sur cette base-là que les gens vont voter. Et donc, ils vont voter pour la seule alternance possible. Là, c'est vraiment une logique d'alternance et de rejet de ces années noires au quotidien qu'a représenté le macrisme.
En parlant du Chili, tout à l'heure, Olivier Compagnon, vous parliez d'un pays très inégalitaire, dans lequel les inégalités sont criantes. C'est le cas d'ailleurs de toute l'Amérique latine, hein, si je m'en réfère à la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, organisme onusien, en janvier, disait que l'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus inégalitaire au monde. Bon, est-ce que l'Argentine est aussi inégalitaire que le Chili peut l'être ?
Elle l'est un petit peu moins si on regarde l'indice de Gini, qui est le grand indicateur que l'on utilise. Mais en revanche, la croissance des inégalités en Argentine est extrêmement forte depuis le début des années 2010. Et on va exactement vers des logiques comparables à celles que l'on observe aujourd'hui au Chili. En sachant qu'après ces inégalités, elles se jouent à différentes échelles sur le territoire. Ce sont des inégalités entre villes et campagnes. Hein. Ensuite, ce sont des inégalités au sein des villes, entre des centres plutôt prospères. Si je vais à Buenos Aires, très concrètement, on va utiliser un Buenos Aires qui ressemble beaucoup à Paris et où ces inégalités et cette pauvreté ne seront peut-être pas aussi frappantes. Dès que vous sortez dans la périphérie de Buenos Aires, vous êtes confronté à des phénomènes de précarité et de misère qui sont absolument incroyables et qui, pour le coup, n'ont aucun équivalent dans un pays comme la France. Et oui, donc, effectivement, hein, aujourd'hui, ce sont les mots fondamentaux de ces pays. Et alors après, évidemment, on s'interroge toujours sur quelle solution politique apporter face à cela. Et là, ça suppose de revenir sur les multiples facteurs de ces inégalités. Alors, on dit souvent, à juste titre, c'est le produit de la mutation libérale des 40 dernières années. C'est vrai, elle a accéléré ces inégalités, elle a contracté les classes moyennes, c'est sûr.
Mais la classe moyenne est la plus touchée.
Oui, en fait, très concrètement, ce qu'on a observé depuis une quarantaine d'années, c'est les classes moyennes inférieures de plus en plus absorbées vers la pauvreté et une partie des classes moyennes supérieures absorbées vers la richesse, mais en tout cas une rétraction des classes moyennes, ce qui en dit long aussi d'ailleurs peut-être hein, sur l'avenir de la démocratie. On sait très bien quand même que démocratie et classe moyenne sont deux notions qui ont souvent été articulées les unes aux autres et aujourd'hui, certaines formes d'instabilité politique ont aussi beaucoup à voir avec l'érosion croissante de cette classe moyenne et l'absence de dispositifs dans ces sociétés permettant justement de lutter contre ces inégalités, permettant des ascensions sociales. Comment on donne de l'espoir à un pauvre, par exemple, en lui offrant la possibilité d'une éducation publique qui peut-être va lui permettre... Ça n'existe plus de manière performante dans la plupart des pays d'Amérique latine où l'État s'est massivement désengagé de toute une série de missions qui ont été privatisée ou semi-privatisée ou déconcentrée vers les régions ou les municipalités. C'est le cas de l'éducation, c'est le cas de la santé. Ça, c'est une logique générale.
C'est pour ça qu'au Chili, les revendications sont très nombreuses à partir du ticket de métro.
Hein.
C'est santé, retraite, université, service public. Ils réclament les services publics. On a même pu lire dans les cortèges au Chili, on ne se bat pas pour 30 pesos, mais contre 30 ans de politique libérale.
Exactement. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, mis à part quelques groupes d'extrême gauche, on ne réclame pas la destruction du capital. Le modèle capitaliste, et j'irais presque le modèle consumérisme, dont le Chili est un assez bon exemple en vérité. C'est le pays qui s'enorgueillit aujourd'hui d'avoir le plus grand centre commercial d'Amérique latine, à Santiago. C'est un centre commercial tout récent et effectivement très impressionnant. Au fond, cette société-là...
réclame de l'interventionnisme presque étatique,
effectivement,
de régulation.
Un état social capable de garantir un accès, au fond, ce que vous souhaitez pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, que nous souhaitons tous, un accès à l'éducation qui soit à peu près égalitaire et une éducation gratuite et performante, un accès à peu près convenable aux prestations de santé, des politiques qui évitent de précariser la vieillesse. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un véritable drame des retraites au Chili, puisque c'est un système de retraite par capitalisation personnelle qui donc reproduit les inégalités. C'est ça, fondamentalement. Donc là, il y a un état social à réinventer, en sachant que, donc, pour revenir à ce que je disais avant, la matrice de ces inégalités, c'est bien sûr 30 ou 40 ans de mutation néolibérale, mais c'est après 2, 3 siècles d'histoire ou 4 siècles d'histoire, on peut remonter non pas aux calendes grecques, mais au moins à la colonisation espagnole. Parce que les inégalités, dans un certain nombre de pays, sont aussi des inégalités socio-raciales. Et là, évidemment, on trouve, je dirais, des sociétés discriminatoires qui se sont fondamentalement construites à l'époque de la colonisation espagnole ou portugaise au Brésil, qui n'ont pas été remises en cause au XIXe siècle, loin de là. Et c'est face à tous ces défis aujourd'hui que les gouvernements tentent d'apporter des réponses. Et c'est compliqué, c'est évidemment compliqué.
Olivier Compagnon, est-ce que toutes ces thématiques dont vous avez parlé, qu'elles soient économiques, qu'elles soient historiques, qu'elles soient de la mémoire de la dictature, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, on les retrouve dans les films aujourd'hui qu'on peut voir sur le continent latino-américain? Je vous pose la question parce que ça fait 13 ans que vous suivez le Festival Biarritz Amérique Latine. L'édition de cette année s'est tenue début octobre, donc il y a juste quelques semaines, et vous êtes sélectionneur pour la compétition documentaire depuis 5 ans. Est-ce que vous avez vu tout ça émerger à travers les films que vous avez regardés?
Je suis co-sélectionneur. Je rends hommage à mes collègues.
Dont acte.
Oui, c'est, alors évidemment, la compétition documentaire est un reflet assez remarquable des préoccupations des sociétés. Il y a encore 7 ou 8 ans, on recevait énormément de documentaires autour des questions mémorielles. Et d'ailleurs, c'est encore un petit peu le cas, puisque cette année, le film qui a été primé est un film coproduit en Espagne et au Pérou, qui s'appelle La Búsqueda, et qui évoque les questions du conflit interne au Pérou, de mémoire, d'exhumation de fosses communes, etc. Mais on voit apparaître aujourd'hui de nouvelles préoccupations. Et par exemple, on a beaucoup de films sur les questions environnementales, évidemment, mais sur les questions environnementales vécues au plus près des populations. Par exemple, énormément de films sur les difficultés d'un certain nombre de populations rurales à accéder à une ressource élémentaire que l'eau. Un certain nombre de films sur, évidemment, les dégâts causés aux communautés locales par les logiques extractivistes qui caractérisent tous les pays d'Amérique latine aujourd'hui. On sait que la croissance économique que j'évoquais dans les années 2003-2013 a très largement été une croissance liée à l'extractivisme qui a provoqué des dégâts considérables sur l'environnement. On le sait en Équateur, on le sait en Bolivie. Et ça, ce sont des choses qui aujourd'hui occupent énormément la production documentaire.
Question environnementale, est-ce qu'on voit aussi les mouvements de jeunesse ou les mouvements de femmes dont vous parliez tout à l'heure?
Les mouvements de femmes, c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors, bon, il y a toute une histoire des mouvements féministes en Amérique latine, qui a à voir d'ailleurs avec l'histoire globale des mouvements féministes, mais c'est certain que depuis 10 ou 15 ans, dans des pays comme l'Argentine, dans des pays comme le Mexique, on a une radicalisation de ces mouvements. Par exemple, la notion de féminicide, qui aujourd'hui est communément employé en France, c'est une notion qui a été construite depuis l'Amérique latine. Ça montre aussi les contributions que les sociétés latino-américaines peuvent donner au décryptage du monde global contemporain.
Donc, on peut lire que l'avortement est l'autre préoccupation des Argentins, voire des femmes en Argentine qui manifestent au nom du droit à l'avortement en Argentine.
Alors, pas que les Argentins, puisque finalement, peu de pays en Amérique latine ont un droit à l'avortement, donc ce droit élémentaire des femmes à disposer de leur propre corps. En Argentine, on sait qu'il y a eu un vote qui a échoué de très peu au Parlement. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une demande sociale très très forte pour la légalisation de l'avortement, comme au début des années 2000, on a l'impression qu'on parle du 19e siècle, mais enfin, il y avait eu une conflictualité très forte au Chili pour la légalisation du divorce. Bon. Voilà, alors sans là encore tomber dans le prospectivisme, il est très probable que dans les 10-15 ans qui viennent, il va y avoir une légalisation de l'avortement partout, parce que de toute façon, c'est une pratique. Au Brésil, on dit qu'il y a 2 millions d'avortements chaque année, alors que l'avortement est interdit. Et tout le monde sait qu'on peut se faire avorter à São Paulo sans trop de problèmes, donc à un moment donné, il convient que la loi, malgré le discours des évangélistes, malgré le discours de l'Église catholique, s'adapte à une situation qui est celle, voilà, des sociétés latino-américaines et des femmes en particulier.